d'économie, Georges Kamoudjova.
Bienvenue à ces échos d'économie. Une grande partie de cette émission sera consacrée aux effets de la crise financière internationale sur les secteurs miniers et bancaires en RDC. Quelles précautions pour sauver les banques congolaises? Un dossier à suivre dans quelques minutes avec Jovin Moussa Oufondé. Il ne s'agit pas seulement du Katanga, du Kasaï ou de la province orientale dans cette crise. Elle frappe aussi les miniers du Kivu. Reportage à suivre avec Sifoma Gourou. Et notre rubrique entrepreneur nous retiendra dans la agroalimentaire à Goma pour écouter Alphonse Moindo Cassolet, le patron de Chamon qui a taillé son destin dans les boudins, les pâtés et les cervelas.
Écho d'économie, les infos économiques de la semaine.
Quel correctif doit-on apporter au budget de l'État? C'est l'une des questions qu'abordent les autorités congolaises avec la délégation du Fonds monétaire international en séjour à Kinshasa. Les rencontres entre les deux parties ont commencé lundi et se poursuivent jusqu'à la semaine prochaine. Tout semble néanmoins pencher vers un recadrage des paramètres macroéconomiques tels que le taux de croissance qui devrait être fixé à moins de 6% selon certains experts parce que l'économie congolaise ne sera pas plus performante que cette année. Alors la croissance économique de la RDC justement, elle commence à afficher un chiffre négatif pour la période allant de juin à octobre. La Banque centrale du Congo l'évalue à moins 2,7%. L'une des raisons de cette contre-performance est la baisse des investissements directs. Si la situation persiste 6 mois durant, l'économie congolaise entrera techniquement en récession. Alors, de façon concrète, la décroissance s'est traduite par le nombre de miniers qui ferment leurs portes. Le gouvernement congolais a décidé de réduire certaines taxes pour aider les opérateurs miniers à surmonter cette crise. Occasion aussi pour le ministère des Mines de faire déguerpir ce qu'il appelle les opportunistes. Mais l'essoufflement poursuit son cours. Après Katanga Mining et Anvil Mining, c'est au tour de Forest de fermer suite à la chute du prix des cobalt sur le marché international. Le groupe du Belge prévoit de fermer sa filiale CMSK dans une semaine. CMSK, c'est la compagnie minière du sud Katanga. Selon les responsables du groupe Forest, cette fermeture est temporaire. Les employés entrent en congé technique, mais continueront à recevoir leurs avantages sociaux, a déclaré à Radio Okapi Henri de Arène, porte-parole du groupe. CMSK, rappelons, a produit cette année 3500 tonnes de cobalt contre 4000 l'année dernière. Une autre qui ferme, il s'agit de De Beers. Cette firme sud-africaine spécialisée dans le diamant a suspendu ses activités d'exploration minière dans les secteurs de Lufubulomami, territoire de Cabinda, au Kasaï oriental. Selon l'agence chinoise Xinhua qui relaie la nouvelle, la société De Beers n'aurait pas trouvé grand-chose dans ses travaux d'exploration. À côté de ceux qui abandonnent la course, il y a ceux qui résistent. Tenke Fungurume Mining, GK Mine et des filiales de First Quantum Minerals. Jusque-là, pas de mauvaises nouvelles pour ces trois opérateurs miniers. First Quantum a 3 opérations actuellement. À Lonchi, près de la frontière avec la Zambie, la mine de frontière à Sakania et KNT à Kolwezi. Alors, le nombre d'employés de ces filiales passe de 12 000 à 1 000, mais First Quantum ne plie pas bagage. Écoutez Raphaël Ngoy, il est administrateur directeur de First Quantum Minerals en RDC.
Au stade actuel, le FIVC nous a trouvé en phase de transition, en train de préparer l'aménagement et le passage vers la mine souterraine. Et donc cette activité continue, parce que comme vous le savez, les cours des métaux baissent et puis ils vont certainement remonter. Et ce n'est pas la première fois que ça baisse en fait. D'ailleurs, je vous signalerai que quand nous avons démarré la mine de Lonchi, les cours du cuivre étaient à 1 400 $. Donc on n'a pas encore atteint les bas qu'on avait connus plus tôt. Nous continuons donc cette opération. La mine de frontière, elle consiste en un concentrateur qui fera à peu près 80 000 tonnes de cuivre cette année sous forme de concentré. La mine et le concentrateur continuent leur activité. Nous avons aussi, bien sûr, le projet de KMT qui est un gros projet de 600 millions de dollars à Kolwezi. Pour le moment, nous sommes en phase de construction très avancée. Nous avons envisagé qu'au rythme actuel de la construction, on pourrait être en mesure d'entrer en production dans le second semestre de l'année prochaine. Et donc, voilà un peu nos activités continues.
Alors, sur 1200 employés, vous avez quand même mis 200 congés techniques?
Oui, en fait, au niveau du concentrateur de frontières, c'est un projet qui vient de passer de la phase de construction à la phase de production. Il a entraîné avec lui un certain nombre d'effectifs qui, en fait, à ce stade, deviennent un peu redondants. Et c'est ainsi que, pour nous, nous avons envisagé une réduction d'à peu près 200 en effectifs pour passer d'à peu près 1200 à 1000 agents.
C'était Raphaël Ngoy de Fès Quantum. Le Nord Kivu n'est pas non plus épargné par la crise qui touche les miniers. Nous le verrons dans moins de 10 minutes avec Sifa Maguru. Il n'y a pas que le Katanga, le Kasai ou le Nord Kivu. La crise financière internationale influe négativement dans les secteurs miniers en province orientale. Selon un des responsables de la Fédération congolaise de l'or et du diamant, section province orientale, 80% des maisons d'achat de diamants et d'or pourraient fermer leurs portes dans les jours à venir. La même source affirme que la hausse du dollar dans cette province est l'une des conséquences du fait que les diamants et l'or font actuellement entrer les devises à Kisangani. On reste à Kisangani, mais dans la microfinance où les opérations de retrait de fonds ont recommencé en début de semaine à la coopérative de crédit congolais pour la reconstruction. Ceci après 3 semaines de suspension suite aux difficultés d'ordre financier. Selon les chefs de délégation du comité de crise CCR, le retrait est limité à 150 dollars pour le compte en devise et 30 000 francs pour le compte en monnaie locale. Plus d'une centaine de clients ont déjà été servis, déjà le premier jour, pour Kastankou.
Au regard des heures limitées pour le retrait de fonds, les clients prennent d'assaut le bureau du CCR de bonne heure avant la fermeture des bureaux à midi. Ces opérations se sont bien déroulées les 2 premiers jours de cette semaine. Depuis, rien ne semble plus fonctionner. Selon des clients, le CCR a une fois de plus de difficultés à respecter ses engagements. Les listes élaborées pour le retrait de fonds ne sont pas respectées. Cela s'est fait de manière sélective en tenant compte des relations entretenues avec les employés de cette agence. Le grincement des dents continue donc, puisque chacun ne peut retirer quand il veut les 150 dollars ou les 30 000 francs congolais par jour comme indiqué actuellement. Pour le responsable du CCR, le mouvement unique de retrait de fonds par sa clientèle ne lui facilite pas la tâche. En effet, il explique que le CCR a lui aussi besoin des dépôts. Le recouvrement auprès de ses débiteurs à qui il a octroyé des crédits produit difficilement de fruits. Cette situation serait due à la méfiance de la population face au CCR suite à la fermeture de ces derniers pendant quelques semaines. Celui-ci sollicite le soutien de la population. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
L'espace brassicole au Katanga accueille la concurrence. C'est en principe la semaine prochaine que Bralima commence à vendre ses bières à Lubumbashi. Ce sont les responsables de l'entreprise qui l'ont annoncé aux autorités du Katanga cette semaine. La production a déjà commencé. Bralima aura à affronter donc Brasimba qui détient des grandes parts de marché dans cette ville. Selon les responsables de la société brassicole, l'investissement au Katanga a coûté 80 millions de dollars américains. Des projets similaires sont en cours à Bukavu et à Kisangani. Terminons ces nouvelles économiques nationales par la monnaie. Le franc congolais a chuté par rapport aux devises étrangères encore cette semaine. Il faut plus de 600 francs congolais pour avoir un dollar et 771 francs pour un euro. Selon la Banque centrale du Congo, le franc congolais a perdu 6% de sa valeur depuis le mois d'octobre, mais l'inflation cumulée reste contrôlée en se stabilisant à 23%.
Le dossier de la semaine.
La crise financière mondiale continue à faire parler d'elle. Les mines en payent les effets, nous l'avons vu, mais la contamination épargnera-t-elle les banques congolaises? Quelles précautions faut-il prendre pour éviter les désagréments? Jocelyne Moussaoupondé est avec nous dans ce studio. Bonjour, Jocelyne.
Bonjour.
Alors, pour nous rafraîchir la mémoire, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette crise qui finalement contamine toute la planète?
Oui, ceux qui suivent l'actualité savent que tout a commencé avec la crise immobilière aux États-Unis d'Amérique. Mais nous avons fait parler Lens Camoya, il est expert économiste. Écoutez.
la plupart des ménages et des personnes aux États-Unis avaient contracté des prêts importants au niveau des banques pour financer la construction de leurs immeubles. Les personnes qui contractent ces prêts n'ont pas d'autre garantie de paiement que les revenus qui vont provenir du loyer de ces immeubles. D'un coup, il y avait la chute du prix des loyers aux États-Unis et les différents propriétaires de ces immeubles n'étaient plus en mesure de rembourser les prêts qu'ils avaient obtenus auprès de la banque. Alors, ce qui a secoué les banques qui ont été obligées de transformer tous ces prêts en titres. Et ces titres ont été négociés au niveau de la bourse, au niveau des marchés financiers, ce qui fait que la crise a été déplacée du secteur immobilier vers le secteur financier. Et quand les bourses ont été touchées, elles ont été assèchées de liquidités. Et voilà, la crise s'est maintenant généralisée sur l'ensemble du système financier, du système économique.
C'était aux États-Unis, mais comment expliquer que toute la planète maintenant s'embrase?
C'est l'effet papillon, comme on dit. Ce qui touche la Chine, par exemple, peut avoir des conséquences en Afrique du Sud. Et ce qui touche les États-Unis d'Amérique peut affecter beaucoup d'autres pays du monde, d'autant plus que les États-Unis d'Amérique constituent aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Et la mondialisation aussi, effectivement.
Et on peut dire que nous, ça nous touche parce que nous sommes aussi une économie fortement dollarisée, c'est-à-dire nous dépendons de la monnaie américaine.
Oui.
Mais cela explique le fait que le secteur minier de la RDC soit touché.
Vous le savez, Georges, nos minerais occupent une place importante sur les marchés internationaux et ces marchés aujourd'hui est en émoi.
Voilà, c'était pour comprendre un peu l'origine de cette crise financière mondiale. Mais revenons à notre sujet, nos banques,
oui.
Sont-elles touchées?
Du moment où leurs clients, dont les miniers, sont affectés, les effets de la crise sur les banques sont inévitables. Stéphane Kunima est sous-directeur commercial à la Banque Congolaise, il nous explique.
Quand on exporte les minerais, par exemple, les clients de l'exportateur qui est à l'étranger payent à travers les banques et les banques sont approvisionnées principalement dans leurs comptes chez les correspondants, donc ce qui facilite leur mécanisme aussi de transfert des clients, c'est-à-dire ils peuvent payer les fournisseurs de leurs clients sur leur ordre à l'extérieur et aujourd'hui tout cela devient difficile. La banque gère l'argent des clients. Lorsque il n'y a plus de dépôt, lorsque les clients sont incapables de faire certaines opérations, la banque qui est gérante de l'argent des clients en souffre.
Je suis venu écouter Stéphane Kunima.
Oui, et là, c'est un aspect des choses, Georges. Un autre aspect, c'est qu'en RDC, il y a aussi des filières des très grandes banques internationales et qui, de facto, subissent les mêmes sorts que les banques mères. Des dégraissages de personnel, par exemple, et des ralentissements d'activité. Et puis, nous n'oublions pas les institutions de microfinance qui, elles, trouvent aussi leur financement auprès des banques internationales et qui, ces institutions connaissent aussi les mêmes problèmes que les grandes banques, hein, des problèmes avec leurs clients. Et dans ces cas-là, les personnes qui ont contracté des crédits ne sont pas en mesure de rembourser. En ce moment, donc, il y a plus de retrait que d'approvisionnement des comptes.
Et on voit cela à Bounia,
oui.
À Bukavu,
oui.
Et même à Kisangani.
Et vous avez cité tout à l'heure la CCR, les crédits congolais pour la reconstruction. Nous avons parlé avec Paul Situka, il est chef d'agence à CCR Kisangani.
Quand nos clients sont atteints de la crise, ils ne viennent plus là. Et quand il n'y a pas de versement, on est bloqué. Il n'y a que des mouvements de frein. Et l'épargne qu'il avait pour d'autres projets, ils l'ont obligé d'aller retirer pour aider sa programme. Parce qu'il ne vend pas. Il a un magasin, mais il n'y a pas de vente. Il est obligé de prendre même son épargne qu'il faisait pour d'autres projets et aller essayer de renforcer un peu le capital là qui est actif. Et c'est ce qui a causé beaucoup de retraits là.
Alors Jocelyne, au regard de tout cela, on doit s'attendre à des conséquences sur l'économie réelle?
Naturellement, conséquences bien sûr aussi sur l'accès au crédit, déjà qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes dans ces sens-là.
Mmh.
Et puis avec la crise, les niveaux de production, vous le savez, les consommations sera faible. Il y aura donc beaucoup plus de chômeurs, il y a d'ailleurs beaucoup plus de chômeurs maintenant, et aussi maintenant les gens ont plus tendance à épargner qu'à consommer. Tout cela freine les affaires.
Alors, des stratégies ou des solutions en vue, on y pense déjà?
Et en ce moment, il y a une commission qui siège à la Prénature pour prendre des mesures contre les effets de cette crise financière sur la RDC. Et selon des sources sûres, la Banque centrale du Congo également a formulé des recommandations à l'endroit des banques présentes en RDC, entre autres la révision des taux directeurs de crédit accordés aux clients, étant donné que la conjoncture actuelle est mauvaise et ne rassure pas. Et puis, il recommandait aux banques, pour les opérations à l'international, d'effectuer leurs dépôts au niveau de la Banque centrale des banques centrales, une banque de règlement internationaux. Cette institution financière ne garde que l'argent de la plupart des banques centrales et effectue facilement des règlements. Donc, elle ne peut pas être secouée comme les autres banques commerciales.
Alors, nous espérons que tout cela sera mis en œuvre pour que les Congolais ne perdent pas davantage confiance aux banques.
Tout à fait, Georges.
Merci, Jocelyne, pour ce dossier. À la semaine prochaine.
Merci, Georges.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
Le monde va mal et ça n'ira pas mieux en 2009. Ce sont des propos pessimistes de l'actuel président du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, en visite au Costa Rica cette semaine. Selon lui, aucun pays n'échappera à la crise financière et bien que 2008 fût une année difficile pour l'économie mondiale, en aucun cas nous ne pouvons espérer que 2009 soit meilleur. Le Fonds monétaire international prévoit en effet que pour le monde entier, aux États-Unis, en Europe, la croissance sera négative l'an prochain. Pour essayer d'atténuer la crise, il a jugé que les pays aux situations présumées plus solides, ceux qui ont des capacités de financer des nouveaux efforts et ceux qui ont un niveau de dette clairement supportable sur le long terme, doivent être en première ligne pour soutenir la demande mondiale. Après les 50 000 emplois coupés par Citigroup, c'est au tour de Bank of America de procéder à des réductions massives de personnel. La banque américaine va en effet licencier jusqu'à 35 000 employés lors des trois prochaines années. Rappelons que Bank of America a racheté en septembre Merrill Lynch et des mesures pourraient affecter 11% des effectifs des deux firmes combinées qui s'élèvent à 308 000 employés. Un clin d'œil sur les marchés des métaux, l'étain termine la semaine à 12 000 $ la tonne, mieux que le week-end dernier. La tonne de cuivre essaye de se maintenir au-dessus de 3 000 $ la tonne en terminant la semaine à 3 200.
Le reportage de la semaine.
Le reportage de la semaine nous amène au Nord Kivu. Le secteur minier n'est pas épargné par la crise qui frappe actuellement le monde entier. Les opérateurs économiques de Goma justifient cette décroissance de leurs activités par une chute de 60% sur les prix des métaux. Le point avec Sifa Maguru.
Le président des opérateurs économiques du secteur minier est formel. D'après lui, leur secteur connaît actuellement d'énormes difficultés depuis bientôt une année. Sur le plan sécuritaire, les opérateurs économiques se disent victimes des dénonciations des ONG telles que Global Witness, telles que le panel des Nations Unies sur l'embargo de groupes armés illégales cités dans les trafics des armes et des minerais dans les Kivu, une situation qui les contraint à suspendre leurs activités. John Kanyoni explique leurs préoccupations.
Nous nous retrouvons dans une situation qui est très difficile et surtout, les derniers événements de l'actualité, c'est les dénonciations dont nous sommes victimes, émanant des ONG comme par exemple Global Witness, émanant des panels des Nations Unies. Voilà les difficultés que nous rencontrons. En fait, on dit que du fait que nous achetions des minerais qui viennent des zones à problème, notamment ce qu'on appelle le Nord Kivu, les territoires de Walikale. Vous êtes sans ignorer que dans le territoire de Walikale, il y a les FDLR et qu'il y a certaines unités de nos propres armées, FRDC, qui sont impliquées aussi dans les commerces des minerais. Et ça pose problème. Les organisations trouvent qu'effectivement, il y a violation de des droits de l'homme, et tant que nous continuons à acheter, alors nous pensons, dans notre avis, que ce rôle-là est plutôt dévolu au gouvernement. C'est à l'État d'instaurer et son autorité sur tout le territoire et voir un peu dans quelle mesure on devra effectivement, peut-être préalablement, démilitariser des sites minières. Ça nous permettra de travailler dans l'atmosphère qui est un peu plus détendue.
Sur le plan économique, M. John Cagnoni ajoute qu'en plus des 3 fermetures de comptoirs enregistrées cette année, ces entreprises sont fragilisées par la crise financière en raison de la dépendance des capitaux étrangers qui se font de plus en plus rares. On l'écoute encore une fois.
Nous devons reconnaître que la crise financière internationale nous a beaucoup perturbés. Et vous vous rappellerez qu'à un moment, du fait que notre gouvernement avait déjà estimé qu'il fallait revoir les taxes à la hausse, s'est retrouvé dans une situation de blocage et nous avions perdu pratiquement plus de 60% de la valeur de la marchandise que nous gardions à l'époque, alors que les cours de métaux à ce moment-là étaient plus ou moins de 24 000 dollars au marché londonien, ce que nous appelons le London Metal Exchange. Dans la situation d'aujourd'hui, on est dans une fourchette qui avoisine pratiquement les 11 000. Si on parle de 24 000 de l'époque et 11 000 aujourd'hui, vous voyez déjà qu'il y a pratiquement plus de 60% de chute par rapport à ce que les métaux représentaient à l'époque. Nous avions à l'époque plus de 20 comptoirs qui opéraient. Aujourd'hui, nous sommes dans une fourchette plus ou moins une dizaine de compteurs qui opèrent très timidement. À l'époque, vous vous rappellerez que nous faisions un volume qui dépassait pratiquement 3000 tonnes par mois. Aujourd'hui, on arrive à peine à faire 1000 tonnes. Voilà la situation dans laquelle nous sommes.
Notons que ces opérateurs économiques souhaitent que le gouvernement s'implique pour résoudre ces problèmes qui vont provoquer des manques à gagner tant pour l'État, pour des populations ainsi que pour eux-mêmes. Pour sa part, le président de la FEC du Nord Kivu s'est dit également préoccupé par cette situation qui va sans doute, selon lui, affecter les autres secteurs, étant donné que les secteurs miniers influent sur l'économie de la province du Nord Kivu en général.
Nous restons à Goma pour découvrir l'homme économique de la semaine. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans les saucisses, les boudins et les cervelas. Son nom, Alphonse Moindo Kasolé. Alphonse Moindo Kasolé, vous avez interrompu votre travail de député national pour nous parler dans cette rubrique entrepreneur. Et c'est vous le patron de Chamoki, charcuterie moderne du Kivu. Vous employez 20 personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous êtes taillé un destin avec la charcuterie.
Bah, c'est un métier qui m'a fait passer toutes les étapes de ma vie. Moi, je n'ai pas été à l'université. C'est quand j'ai terminé l'école secondaire, directement, on m'a pris pour gérer une boucherie charcuterie. C'est à ce moment-là que j'ai fait tout pour rentrer dans les profondeurs des choses. Et j'ai su m'adapter à gérer une boucherie et à travailler et à produire. Moi-même, je suis charcutier. Comme vous me voyez là, j'ai fait tous les mélanges possibles pour pouvoir arriver aux saucissons que vous voyez, les saucisses, les saucissons, les boudins, les pâtés et tout ça. Donc, c'est quand j'ai terminé l'école secondaire, directement après, je suis parti gérer une boucherie à Goma. Et après 3 ans, j'ai démissionné pour créer ma propre entreprise. Et ma propre entreprise, je l'ai créée en 1977. Aujourd'hui, j'ai toujours ma boucherie charcuterie, ça existe toujours. Et malgré toutes les guerres qu'il y a eu, je suis parvenu toujours à me redresser.
Vous êtes parti de combien pour avoir un capital de combien?
Quand j'ai commencé à travailler, je me rappelle, j'ai gagné encore à peu près 100 dollars. Quand on voit l'argent que je gagnais à ce moment-là, c'est au début, j'ai commencé avec 100 dollars. Et chaque fois, comme j'étais encore célibataire, je pouvais vivre avec 50 et je mettais chaque fois 50 de côté. Et j'ai terminé, après 3 ans, j'étais déjà arrivé à 150. Vous voyez, ce n'était pas aussi grand que ça, mais après ça, j'avais quand même un bon petit montant. Après toutes ces années, avec une certaine discipline, j'avais quelques milliers de dollars déjà.
Donc vous voulez dire que pour être un bon entrepreneur, il faudrait un peu de discipline?
Exactement, il faut une discipline. Écoutez, moi je ne suis pas né avec de l'argent. Comme vous voyez là, je suis métis. Je suis né, mon père ne m'a jamais reconnu. Ma mère était pauvre. Il fallait une certaine discipline pour arriver à quelque chose. Et je savais que si je ne parviens pas à travailler, je vais mourir, je vais dépérir. Alors, il fallait choisir entre la vie ou la mort. J'ai choisi la vie. Alors, il fallait travailler et faire des connaissances, créer un lit pour moi, quoi.
Quand vous partez de la matière première, c'est-à-dire qui est la vache ou le porc, pour aller jusqu'aux saucisses, donc à votre matière finie, c'est quelle quantité de vaches, par exemple, aujourd'hui, que vous utilisez par mois ou par an?
Oui, pour le moment, j'ai fait des comptes de tout ce que je fais, il n'y a aucun problème. J'arrive facilement à 200 porcs par mois et 150 vaches par mois. Quand tout va bien, c'est comme ça. Mais pour le moment, il y a un ralentissement à cause de la guerre, à cause de tout ce qui se passe au Nord Kivu. Et comme mon lieu de prédilection, c'est le Masisi et le Rutshuru, voilà, ça nous cause un peu de problèmes. Et d'ailleurs, pour le moment, j'ai des nouvelles. Le prix des vaches et le prix des porcs, ça augmente pratiquement presque même de 50%.
Ce qui ne rend pas votre business difficile, j'imagine. Malgré les guerres, vous avez réussi à vous redresser.
Ah oui, ce n'est pas facile à évoluer dans de telles situations. C'est la raison pour laquelle moi je suis pour la paix. Et je crois que tout le monde est pour la paix. Je sais évoluer là où il y a la paix. Et quand il n'y a pas de paix, les vaches ne savent plus vivre. Tout le monde veut piller les vaches. Et pour moi, c'est très embêtant.
En temps de paix, c'est un marché florissant et qui pourrait intéresser d'autres entrepreneurs.
Bien sûr, bien sûr. En temps de paix, écoutez, tout le monde a besoin de la viande. Hein. Et c'est une richesse qui peut nous donner beaucoup d'atouts dans notre pays. Et même pour les taxes de l'État. Je crois que si chaque Congolais avait une vache, ça serait déjà une richesse. On aurait des milliers de vaches. Ça représente une richesse. Et quand on vend, c'est sûr qu'on a de l'argent.
Et quelles sont les valeurs, vos propres valeurs que vous voulez inculquer à l'entreprise?
Écoute, je gère mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai des grands garçons. Je suis député national. Comme ils sont nés dans l'entreprise, ils connaissent très, très bien les rouages de l'entreprise. Et je les ai mis au four et au moulin. Ils sont en train de travailler et je suis fier d'eux aujourd'hui. La seule chose que je peux ajouter, c'est que je dois demander à notre peuple qu'il ne faut pas trop penser que c'est l'État qui doit tout faire. En principe, ce sont les hommes qui ont créé l'État et non pas l'État qui a créé les hommes. Et pour créer quelque chose, c'est qu'on est un patron. C'est le peuple qui est le patron. C'est le peuple qui doit régénérer des recettes et contribuer pour le bon fonctionnement de notre pays. Moi, j'ai travaillé et j'ai toujours payé des impôts à l'État. Je n'ai pas demandé à l'État de pouvoir créer mon entreprise. Je l'ai créé avec mon intelligence, avec mon cerveau et je contribue à l'État. Alors, s'il y avait beaucoup de gens comme ça, c'est sûr, un pays ne peut pas manquer de chômeurs, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'entreprises pour pouvoir soutenir les besoins de l'État.
Merci beaucoup. C'est avec ces mots de l'honorable Alphonse Moïndo Katsolé que nous terminons cette émission Écho d'économie. À ceux qui veulent bien nous écrire vos suggestions et recommandations, c'est à eco@radioosami.net. L'émission a été réalisée par Jocelyne Moussaou et Asin Didier-Taïro. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
C'était un des fameux.